Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible, s'il vous plaît, et je vous propose que nous ouvrions le premier livre de Samuel, livre de Samuel. Nous avons là, notre méditation. Mais d'abord, je voudrais simplement rappeler, il y a dans le livre de l'Ecclésiaste une maxime qui nous dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, je ne sais pas quelle est votre appréciation sur, cette affirmation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Y aurait-il, est-ce possible d'avoir des fins heureuses après des commencements difficiles? Ou y aurait-il des commencements heureux et puis des fins désastreuses? Alors, on va prendre en considération cette pensée. On va essayer de la développer ensemble. On est entre nous, on va faire un petit peu de recherche biblique. Alors, ça se trouve tout ça dans le livre de 1 Samuel, et on va commencer par 1 Samuel, chapitre 8. Voilà, quelques brides de la parole de Dieu, quelques versets, et on va dérouler notre réflexion, notre pensée à travers ce cheminement que nous avons défini ensemble. Alors, c'est très simple. Donc, 1 Samuel, chapitre 8, et c'est l'histoire, de ce peuple de Dieu, le peuple élu, qui, après avoir été conduit d'une manière extraordinaire et formidable pendant tant d'années, de façon miraculeuse, les Hébreux sortis d'Égypte, la conduite de Dieu à travers la mer Rouge, dans le désert, sous l'égide d'un homme extraordinaire, Moïse, et puis ses descendants, à un moment donné, il nous est simplement dit que le peuple d'Israël, fatigué, las ou lassé de la théocratie, c'est-à-dire la conduite de Dieu, la marche par la foi, va voir le prophète Samuel et va lui dire, écoute, ton Dieu, on ne le voit pas, nous voulons avoir un roi maintenant, un homme qui marche devant nous, qu'on puisse voir, avec lequel on puisse parler, avec lequel on puisse finalement être là, protégé, en sécurité. Nous voyons que cette demande va être un grand déplaisir pour Samuel, parce qu'on s'aperçoit que le peuple d'Israël est en train de dégringoler. Le peuple d'Israël est en train de perdre la foi pour opter pour l'incrédulité, pour opter à être semblable à toutes les nations. C'est-à-dire être comme tout le monde, avec ses religions, avec ses faux dieux, avec cette accointance avec l'occultisme et toutes sortes de choses. Donc c'est une dégradation, à la fois politique, sociale, religieuse, tout va mal. Ça ressemble pas à notre époque où tout va bien. Ah oui. Alors, on va essayer de voir un peu quand tout va mal. Et dans ce chapitre 8, on va lire quatre versets que j'appellerais le choix humain. Voilà, les hommes choisissent selon leur cœur, selon leur goût, selon ce que, peut-être les puissants peuvent leur donner. Et on va lire ça. Alors, il nous est dit que un petit peu avant, Samuel était devenu vieux. Il avait été juge en Israël pendant de nombreuses années et ça avait vraiment bien fonctionné avec Samuel. Vraiment l'homme de Dieu, l'homme de foi. Et nous voyons qu'au verset 4, il nous est dit que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et ils lui ont dit « Voici tu es vieux », il le savait, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces », ce qui était vrai. « Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger », ils savent pas ce qu'ils disent, ce que on va voir après, « pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations ». Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux et ils agissent à ton égard. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Voilà, Samuel, qui est le prince spirituel d'Israël à ce moment-là, un homme qui a laissé un excellent témoignage d'une foi formidable, extraordinaire, va être confronté avec, dans les derniers jours de sa vie, quel déplaisir de dire, eh bien maintenant, ton Dieu, tu te le gardes pour toi, mais nous, nous voulons véritablement vivre un peu à la manière de tous les peuples, hein, et on sait comment ça s'est passé. Et c'est vrai que c'était un coup très difficile. Et donne-nous un roi pour nous juger. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, parce que vaut mieux encore être jugé et faire face à la miséricorde de Dieu que à ce que les hommes jugent, et souvent d'une manière impitoyable, ou souvent il n'y a pas une seconde chance. Mais ils veulent faire l'expérience. Voilà, hein. S'il y a quelquefois des aventures comme ça, on veut faire l'expérience parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Bah, on va faire l'expérience, c'est ce qu'ils vont faire. Donne-nous un roi pour nous juger. Mais Samuel a prié Dieu. Il n'aura pas dit, écoutez mes petits-enfants, je vais vous donner tout de suite ce que vous voulez. Il a prié Dieu parce que c'était pas dans sa façon de penser à Samuel. Hein. Mais c'était comme ça, de toute façon. Que pouvait-il faire le pauvre Samuel? Alors, Dieu a répondu à Samuel et lui a dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Fais comme qu'il te demande. Ils le veulent, ils vont l'avoir. C'est sûr. Car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Ça nous rappelle quand même une parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Quand Jésus va raconter cette parabole, où il est dit que, eh bien là, les sujets d'un royaume, eh bien, ont vu un jour leur roi partir pour se faire investir de l'autorité royale. Ça devait être un prince, mais qui devait devenir roi, tout simplement. Et quand ils l'ont vu arriver avec l'investigation royale, ils se sont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Il parlait de Jésus, hein, naturellement. Il parlait de Jésus. Donc Jésus a mis ça un petit peu, et en quelque sorte, on peut dire que c'est quelque peu, eh bien, avant-coureur de ce qui va se passer dans l'Évangile. Et Dieu leur dira, mais ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, parce que moi j'ai toujours manifesté pour ce peuple que j'aime, le peuple d'Israël, ma grâce, ma bienveillance, je les ai sortis de l'esclavage, je leur ai donné des miracles et des choses surnaturelles, mais ils n'ont pas vu. Enfin, ils les ont vus, mais finalement, ils n'ont pas retenu. Et ils ont toujours agi de cette manière. Alors écoute leur voix et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître ce qu'un roi va leur coûter. Alors, quand on voit un petit peu la liste, l'échantillonnage des rois de Juda et des rois d'Israël, il y en a eu quelques-uns qui ont été bons, quelques-uns qui ont été des hommes de Dieu, fidèles, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, si on se souvient de Manassé, et puis y en avait d'autres, je peux vous dire que ça a été terrible. D'ailleurs, c'est ce qui les a amenés à la déportation à Babylone. Akab, par exemple, le roi d'Israël, là, ils se sont mordus les doigts. Hein, ils n'étaient pas présents parce que ceux qui avaient demandé ça, ils étaient morts. Mais leurs descendants, leurs petits-enfants, ils ont vu ce que c'était d'avoir un tyran, d'avoir finalement, eh bien là, des despotes. Et pourtant, c'était des hommes qui étaient des hommes dans le peuple de Dieu, mais qui n'avaient plus rien de finalement d'israélite et qui, voilà, n'avaient plus rien. C'était tout simplement des profiteurs et des broyeurs de vie, on peut dire ça comme ça, sanguinaires. Donc ça, c'est le choix humain, on l'a vu. On va aller un peu plus loin et on va prendre par exemple dans 1 Samuel, toujours, on va faire un petit peu de promenade dans notre vie. Alors, 1 Samuel chapitre 9, hein, c'est ce qui suit. Et puis, voilà, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Alors, j'ai passé sur des versets, parce que on va pas tout lire. Hein. Et il nous est dit, puisque Samuel avait demandé qu'on lui donne un roi, voilà le roi qui va apparaître. Il y avait un homme, verset 1er, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, alors je passe à tous les noms parce que là il y en a pas mal, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alors voilà. Formidable. Nous avons là un jeune premier qui arrive et il est d'une famille, c'est vrai, puisqu'il nous est dit que son père était fort et vaillant, donc un héros peut-être, hein, déjà nommé comme ça en Israël. Je ne sais pas si c'était un héros de la foi, mais enfin bon, il est présenté comme une famille solide dans tous les cas. Et il avait donc un fils du nom de Saül. Saül. Et vous savez ce que veut dire Saül? Connaissez-vous la signification du nom Saül en hébreu? Demander à Dieu. Ils l'ont demandé, ils l'ont eu. Voilà. Demandez, vous recevrez. On est bien d'accord, hein? C'est ce que Jésus nous enseigne. Alors, nom de Saül, il était jeune et beau. Je suis désolé, mais ce soir, j'ai pas trouvé de photographie pour vous le montrer, pour voir un petit peu ce qu'il était, hein. Mais voilà, on se contente de ce que nous dit la Bible. Il était plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Je me souviens d'une autre histoire, que quand David plus tard est arrivé, alors je pense que ça devait être les filles en Israël, quand ils avaient vu Saül, ils devaient dire, mais oh, quelle merveille, magnifique, hein. Enfin, je voudrais pas vous faire rêver, enfin, les dames, mais toujours est-il que tout le monde devait se pâmer. Mais un jour, il a pris une leçon, notre brave Saül, c'est qu'il y a eu le petit David qui est arrivé, et à un moment donné, mais ça c'est l'ironie de Dieu, et on disait toujours, Saül a eu ses 1000, et puis David a eu ses 10 000. Oh la bobine. Alors là, il était vert, il était bleu, il était violet, notre Saül, hein, parce qu'il s'attendait pas à ça. Hein. Mais enfin bon, derrière, il y a quelque chose chez cet homme. Alors, beau, plus beau qu'aucun des fils d'Israël, et il les dépassait tous de la tête. Alors, si vous êtes petit, ne soyez pas complexés. Hein. Des grands hommes. Faut savoir ce qu'on appelle grand. Parce que vous savez, souvent Dieu a choisi des petits. Zachée, par exemple. Petit. Mais pour se grandir, il est monté dans un arbre. Eh oui. Donc c'est une astuce, hein. Et puis, vous avez Paul. Parce qu'en grec, Paul, ça veut dire petit. Le petit. N'imaginez pas que Paul, c'était un grand homme, hein. C'était un petit homme, certainement. Son nom est, en grec, c'est ce que ça signifie. Mais, vous savez, Dieu va toujours chercher les petits pour qu'ils deviennent grands. Et les grands, pour qu'ils soient humiliés, qu'ils s'abaissent, pour avoir, finalement, eh bien, le caractère des petits. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, là, ça va? Vous suivez, hein, c'est une question de géométrie et de volume. Toujours est-il qu'il est dépassé tous de la terre. Voilà un choix séduisant. Et on est tout à fait dans la demande, un exaucement, point par point, finalement, de ce que le peuple avait demandé. Donne-nous un roi. Alors, il avait dit, ben voilà, je vais vous en faire sortir un roi. Je vais le choisir moi-même, il est beau, il est grand, c'est un séducteur, c'est quelqu'un de formidable. Vous le voyez là, parmi, dans la foule de tous ces soldats, vous le voyez, c'est lui qui dépasse de la tête de tout le monde. Alors, donc, on peut dire que Dieu exauce les prières. C'est vrai, un bel exaucement. Vous remarquerez que ni Dieu, ni Samuel n'est d'accord, mais il donne quand même. Il le donne quand même. Alors, ce choix. Nous allons maintenant tourner la page et nous allons là au chapitre 10. Je suis désolé de vous faire travailler ce soir en fin de semaine, comme ça c'est peut-être un peu difficile, mais je pense que c'est intéressant dans ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, chapitre 10, on va lire d'abord le verset 1er. Nous en sommes où là, eh bien maintenant, on a repéré, on a identifié, on a fait sortir de la foule le futur roi d'Israël. Et c'est le moment de la consécration. Saül prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Et vous remarquez, c'est pas une affirmation, c'est une interrogation. Ah ! Donc, il y a peut-être un doute qui vient s'inscrire là, à ce moment-là. Je ne sais pas, moi je lis ça comme ça. Il a pris une fiole d'huile. Une fiole, c'est pas grand-chose, une fiole. C'est un petit peu. Hein? Quand on fait l'onction de l'huile, on en a une derrière, vous ne la voyez pas, hein, toute petite. Alors on va voir ce que c'est, la différence qu'il y a entre une fiole et... Je vous dis pas, on verra ça tout à l'heure. Il a pris cette fiole d'huile, c'est ce que l'on faisait. C'était la première fois qu'on le faisait en Israël, c'était la première fois qu'un roi montait sur le trône. Donc, investiture royale qui était... marqué par une onction d'huile sur le premier, qui était le premier dans le peuple de Dieu. Donc le roi était censé non seulement être le roi en son royaume d'un peuple, mais il était le représentant de Dieu dans ce peuple. Il y avait une onction. Alors, Samuel a pris la fiole d'huile, la fiole d'huile, excusez-moi, j'ai un problème. Il a répandu sur la tête de Saül, il l'embrassa fraternellement, naturellement, et il y a cette question, l'Éternel, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois? Alors, la question n'est pas répondue encore, parce que la question, finalement, c'est pas Dieu qui va la résoudre, c'est pas Dieu qui va donner la réponse, c'est pas Samuel qui va donner la réponse, il y a un point d'interrogation. C'est Saül qui va donner la réponse, à travers sa vie de roi, de ce qu'il va faire de son royaume, de ce qu'il va faire de cette onction que Dieu lui a donnée. Sera-t-il un bon roi ou un mauvais roi? C'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation. Le verset 6, toujours à la même page, on va découvrir encore autre chose. Il y a eu une fête, on a célébré un petit peu la chose, et à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel, c'est le prophète qui lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, Saül, tu prophétiseras sur ton peuple, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est lié, cette offrande, finalement, à l'investiture de Saül. On est bien d'accord, hein? Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dis ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisait au milieu d'eux, comme cela avait été dit. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et que l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul n'est-il pas parmi les prophètes? Et puis après, il y a la suite, naturellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Samuel va lui faire des promesses de la part de Dieu. Dieu a honoré le choix douteux du peuple, mais Dieu ne se désengage pas pour autant. Et il va, par la bouche du prophète, lui dire, eh bien, l'Esprit va venir, il va te saisir, et tu vas prophétiser avec tous les prophètes en Israël. Vous en êtes compte? Ça, c'est surnaturel, la prophétie. C'était les anciens prophètes de l'Ancienne Alliance. Ne pas confondre avec les prophètes du Nouveau Testament, naturellement. Et tu seras changé en autre homme. C'est ça ce qui est important. Parce que là où il y a véritablement l'onction de Dieu sur une personne, lorsqu'il y a véritablement, eh bien là, la marque prophétique de Dieu et qu'une personne puisse aussi rapporter les paroles prophétiquement de Dieu, eh bien, il y a nécessairement quelque chose qui est important, parce que là, on parle des dons. Quand il est question, donc, de prophétiser, c'est le don. Mais ce qui est plus important, c'est le fruit, changer en un autre homme. Ah! Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce côté-là. Nous, chez les pentecôtistes, on a mis beaucoup l'accent sur les dons. Ceci, cela, et on a jugé des gens en disant, des hommes et des femmes, enfin des hommes dans le ministère, en disant, ben voilà, il a la puissance de Dieu avec lui, il est oint, etc., etc. Alors donc, c'est forcément qu'il est spirituel. Mais il est bien dit, tu seras changé en un autre homme. Parce que si les dons et les fruits ne vont pas ensemble, c'est un désastre. C'est ce que nous allons voir d'ici quelques instants. Un désastre. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, ben alors à ce moment-là, fais ce que tu veux. Puisque maintenant tu es intronisé, tu vas rentrer dans ton royaume, en quelque sorte, et Dieu est avec toi. Dieu est avec lui. Effectivement, Dieu est avec lui. Mais il va y avoir une condition. Samuel va lui dire, tu vas descendre à Gilgal, c'est une autre ville qui n'était pas très éloignée, et il lui dit ces choses, voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, c'est ce que j'ai explicité tout à l'heure, tu attendras 7 jours. Tu attendras un temps. Alors là, c'est 7 jours, mais ça peut quelquefois être plus long. Quelquefois, il y en a qui ont attendu plus longtemps. Ça peut se compter en semaines, ça peut se compter en mois, en années. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que moi, Samuel, j'arrive pour offrir les holocaustes et présenter finalement les actions de grâce. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Parce que pour l'instant, il a reçu l'onction de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Dieu a promis qu'il soit changé en un autre homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est pour ça qu'il doit attendre. il doit mettre quelque part eh bien, un temps avant de... Il est roi et il n'a pas à se précipiter, finalement, eh bien, sur son trône en disant « Regardez, je suis le roi maintenant, on va faire ceci, on va faire cela ». Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu de programmes électoraux, hein, il me semble. Hein. Mais toujours est-il que, voilà, ça c'est la voix de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Et de fait, dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Ça c'est formidable. Quelquefois, il y en a qui ont voulu servir Dieu en disant « Seigneur, eh bien, moi je veux changer mon cœur pour que je puisse être comme tu veux ». Non. Ça marche pas comme ça. C'est Dieu qui change notre cœur comme lui veut que nous soyons, et non pas comme nous désirons être. Il changea son cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Il avait la confirmation. Vous rendez compte? En une journée, il va tout avoir. Hein? L'onction surnaturelle, les manifestations finalement de la puissance de Dieu, une personnalité différente qui est changée, et cela en un instant. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit à ce moment-là. C'est là où il va faire l'expérience, en quelque sorte. Oh, j'irai pas du baptême du Saint-Esprit, parce qu'on n'en est pas là. C'est pas la Pentecôte. Elle viendra plus tard. Mais toujours est-il que ça devait être quelque chose de très sensible, hein, quoi qu'il en soit. Et il nous est simplement dit qu'il prophétisait au milieu d'eux. Il s'est mis à prophétiser, à parler les paroles de Dieu, à dire les paroles de Dieu, à dire les mots de Dieu, à dire la pensée de Dieu, exprimer la volonté de Dieu. Formidable, hein. C'est vrai que c'est quelque chose. Et tous ceux qui l'avaient connu hein, auparavant, parce que ça devait être quand même un petit jeune homme là qui devait s'être fait remarquer, puisqu'il nous a dit, tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Ils se sont dit, ben alors là, on n'aurait jamais pensé que notre copain Saül, excusez-moi l'expression, hein, non mais je parle entre jeunes, enfin, excusez-moi, c'est pas par rapport à vous et moi, mais je parle entre les jeunes qui pouvaient connaître, en disant, mais on l'a connu. Oh, c'est pas possible. Il a fait des blagues, il a fait des tours, etc., etc. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On le voit prophétiser. Et ils se disaient l'un à l'autre, mais est-ce que c'est vraiment le fils de qui? Et on a dit la même chose de Jésus. Est-ce que c'est le fils de Joseph? Parce qu'il a vraiment pas eu bonne mine, hein, ce Jésus-là, notre ami Jésus. On a grandi avec lui. Hein. Bon, ça peut pas être un prophète, ça peut pas être le Messie, naturellement. Vous vous rendez compte qu'on retrouve à peu près les mêmes réflexions, des pensées humaines, toutes sortes de choses, soit pour encenser ou pour décrier. Mais c'est peut-être le fils de Kis. Saül, maintenant, est-il le fils de, parmi les fils des prophètes? Alors là, ça les a complètement médusés. Ils se disaient, mais c'est pas possible, une chose pareille. On a parlé du choix humain tout à l'heure. Nous voulons un roi. On a parlé du choix séduisant, voilà un bel homme qui apparaît. On peut dire, mais c'est lui, ça ne peut être que lui, naturellement. Et puis là, on a parlé de la distinction par l'onction de Dieu et tout simplement, eh bien, ce que Dieu a fait déjà pour lui en lui donnant tous les atouts pour pouvoir être vraiment un homme de Dieu. Il est doté. On va tourner encore une page de notre Bible, on va aller au chapitre 13. Et c'est là où on va voir que les choses peuvent changer. Alors, au chapitre 13, au verset 8, on a bien dit que Saül devait attendre 7 jours, d'accord? Bon, c'est pas long, 7 jours, c'est une semaine. Enfin bon, peut-être que c'était trop long pour lui. Alors, au verset 8, il nous est dit, je traduis, hein, il, Saül, a attendu 7 jours. Il a bien attendu les 7 jours. Hein. Ça fait un peu comme la promenade autour de Jéricho, vous comprenez? Hein, vous vous en souvenez de ça? Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. On peut dire jusqu'ici, il est dans les clous, pas de problème. Il n'y a aucun défaut chez Saül. Il est vraiment comme il faut. Mais, il y a un mais. Parce qu'il faut bien comprendre dans la lecture. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Parce que c'était en guerre à ce moment-là. Il y avait la guerre avec les Philistins. Il y avait les deux armées face à face. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Et ça pouvait durer des jours et des jours, hein, ces confrontations, avant véritablement l'engagement du combat. Et les Philistins étaient très nombreux. Les Israélites Il venait d'avoir un nouveau roi tout frais, tout moelleux, hein. C'est la première fois qu'il peut-être il était là exposé au feu. Et comment diriger cette armée? Comment faire? Mais le problème, parce qu'il y en a un, et c'est un problème qui est récurrent parmi les hommes et parfois aussi parmi les chrétiens, mais Samuel n'arrivait pas. C'est curieux. Pourquoi Samuel n'arrivait pas? Est-ce qu'il avait eu un contretemps? Est-ce qu'il avait oublié peut-être quelque chose? Il est retourné dans sa maison? Est-ce qu'il avait oublié que je ne sais quoi? Mais il n'arrivait pas. Vous savez, les impatiences, ça peut nous jouer des mauvais tours, mais vraiment des mauvais tours. Vous connaissez l'histoire de Lazare, de Marie et de Marthe, hein? Ah, Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Il y en a une qui le dit et l'autre qui répète la même chose. Ah, et pourtant Jésus a fait un miracle à ce moment-là, hein? Et c'est parce qu'il n'était pas à l'heure, Jésus, qu'il a fait un miracle. S'il avait été à l'heure, il n'aurait pas fait une résurrection. Il aurait fait simplement une guérison. Ben oui, parce qu'il n'était pas encore mort. Mais quand Jésus est arrivé, il a attendu que Lazare soit mort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité humaine. Quand on est mort, hein, naturellement. Alors, moi, ça me saute à l'esprit tout ça, parce que il y a quand même finalement des réflexions, mais il n'est pas arrivé, Samuel. Et je pense qu'on peut s'imaginer que notre Saül allait regarder continuellement là le cadran solaire. Je ne vais pas dire sa montre, mais le cadran solaire pour voir. Mais enfin, je fais ça à la manière de contemporaine. Je veux dire, il m'avait dit 7 jours. Enfin, le 7e jour, c'est quand même du matin jusqu'au soir. Ça fait encore peut-être bien 12 heures. Il commence à s'impatienter. Il devait tourner en rond en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, le prophète Samuel m'a dit qu'il fallait que j'attende. J'ai attendu. Je suis comme il m'a dit. Et lui, c'est lui qui est en retard. C'est lui qui n'arrive pas. Qu'est-ce que l'on fait? Mais il a commencé à s'impatienter sérieusement. Il a commencé à paniquer aussi, Saül. Parce que vous savez, les horaires de Dieu ne sont pas les nôtres, hein. Il y a les contretemps de Dieu dans nos vies, où quelquefois nous fixons un rendez-vous au Seigneur en disant « Seigneur, t'es bien là à l'heure, hein, parce que moi je souffre, hein, parce que moi j'ai tel ou tel problème. » Puis on s'aperçoit que le Seigneur n'est pas là. Si, si, il est là, mais c'est que vous ne le voyez pas. Et il veut voir comment vous allez gesticuler dans cette affaire. Soit vous allez vous tenir dans le calme et la confiance qui sera votre force, ou alors vous allez vous débattre comme un beau diable, c'est ce que l'on dit, hein. Et là, vous allez faire n'importe quoi par vous-même en oubliant Dieu. Donc vous tombez dans l'incrédulité. Samuel n'arrivait pas, parce que le peuple se dispersait loin de Saül. Vous rendez compte? Ça fait 7 jours qu'il est roi. Le peuple l'a acclamé, l'a accueilli, et à cause de cette circonstance du retard de Samuel, eh bien, le peuple commence à se disperser de lui, parce qu'ils attendaient pour offrir les holocaustes et puis les actions de grâce. Mais c'était pas Saül de le faire, parce que Saül était roi d'Israël, mais il n'était pas sacrificateur. Il n'était pas le prêtre. Il n'était pas habilité à faire ce travail-là. Et quand on veut se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, ben, il arrive des choses qui ne vont plus. Ça ne peut pas marcher. Et le peuple se dispersait de Saül. Et quand Saül a vu dizaines, vingtaines, une centaine de ses soldats qui commençaient à rentrer chez eux, il s'est dit « Mais ne me laissez pas tout seul, il y a encore quelque chose à faire. » Alors Saül dit, il a pris l'initiative par lui-même. Ça nous rappelle le roi Ozias, qui avait voulu offrir dans le temple de Jérusalem des holocaustes aussi, hein. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été frappé immédiatement de lèpre. Impatience. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Et ça, c'est la phrase fatale. Et c'est lui qui a offert l'holocauste à la place de Samuel. C'est tout bête, hein, comme histoire, franchement, hein. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, les choses avaient été faites, et puis il avait bien vu, parce que bon, c'était pas la première fois qu'il voyait ça, c'était un Israélite, il avait vu certainement les Lévites, enfin, les sacrificateurs faire ça, donc il s'est dit après tout, s'ils le font, moi je peux le faire. Il faut faire attention, parce qu'il faut une autorisation de Dieu. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Waouh! Alors là, ça jette un froid. Hein. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Ah, oh, qu'est-ce que je suis content de te voir! Ah, oh, dis donc, je t'ai attendu toute la journée! Et puis, je me suis inquiété, je me suis dit, peut-être que tu as eu un accident sur la route. Hein, peut-être que, je ne sais pas, mais je me suis imaginé toutes sortes de choses. Tu m'as donné une peur folle. Et mais heureusement, tu es là. Tu arrives maintenant, hein. Tu arrives. Il aurait peut-être pu agiter ce qu'on va dire tout à l'heure. Samuel dit, mais qu'as-tu fait, Saül? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais demandé d'attendre 7 jours. J'étais bien, je suis bien là, 7 jours. J'ai fait comme tu m'as dit. Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi. C'est ça le problème. L'ego, le moi. Tout à moi, je suis le roi, vous n'oubliez pas. Hein. Vous n'oubliez pas que je suis le roi depuis 7 jours. Mais c'est moi maintenant, hein, le point de mire, etc. Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et Samuel ne lui avait pas dit j'arriverai à 19h45. Hein. Donc, quand j'ai vu ça, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, parce que l'armée était en face naturellement, je me suis dit, là on n'est plus dans l'Éternel lui dit, mais je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, toujours lui, moi, alors qu'il y avait d'autres, toute son armée pouvait y passer, hein, et la tête coupée, hein, mais c'est toujours lui, contre moi à Gilgad, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Ah! La bénédiction de Dieu dans la désobéissance et l'impatience. Ah! Et là, faut faire attention, mes frères et sœurs. Parce que ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Dieu ne bénira jamais une désobéissance. Il pardonne les fautes, mais il ne peut pas bénir finalement une désobéissance. Il pardonne si on se repent, si on demande pardon. Mais une désobéissance, non. Parce que c'est une question de soumission à Dieu et de confiance en Dieu. C'est très important et on a un texte là extraordinaire dans l'Ancien Testament pour nous montrer la manière, l'économie de Dieu, l'économie spirituelle de Dieu et notre responsabilité à chacun, nous qui prétendons soit être fils d'Israël, roi d'Israël ou tout simplement chrétien de nos jours. Je me suis dit, ben voilà, ils vont s'éloigner de moi, mais j'ai quand même imploré l'Éternel. C'est pour ça que j'ai offert le sacrifice et que c'est pour ça que j'ai fait les actions de grâce. Donc, je suis couvert. Vous savez, il y a quelquefois, il y a des gens qui font des projets. Moi, je le vois, hein, même dans nos églises évangéliques. Hein. Seigneur, eh bien, on fait construire une salle, on fait construire une église. On a fait des plans, on a fait ceci et cela. Bon, on a évalué ce que ça donnait. Maintenant, tu bénis ce qu'on a décidé. C'est pas comme ça que ça marche, mes frères et sœurs. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est nous qui marchons derrière lui et c'est pas lui qui marche derrière nous. Je suis désolé, hein. Et après, il y a des catastrophes. Après, on s'aperçoit qu'on peut plus financer. On s'aperçoit que dans une construction, par exemple, quand même assez conséquente, eh bien, survient une division. Et qui c'est qui va payer quand il y a plus que la moitié des gens, et pourtant des gens qui se sont engagés et qui sont partis et qui ont mis l'église à feu et à sang. Comment on fait après? Alors on pleure. On dit, Seigneur, comme dans le livre des juges, tu vois nos ennemis, tu vois ceci et cela. Mais c'est pas les ennemis. C'est parce que finalement, eh bien, on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Et vous savez, c'est très simple avec Dieu. C'est de marcher au pas avec lui. Quand il nous dit avance, avance. Et quand il nous dit reste là, tu restes là. Quand il nous dit recule, tu recules. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence. Et oh, là vraiment, il manque pas de souffle notre Saül. Je me suis fait violence, tu sais, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai pris sur moi, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas sacrificateur, mais ça me démangeait, et je me suis retenu, mais je me suis pas retenu. Excusez-moi, mais il y a quand même du comique hein, dans cette affaire. Hein. J'ai pas pu, c'était plus fort que moi. Alors, on va voir la suite. Mais je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel va répondre à Saül, tu agis en insensé, tu es fou, tu as perdu la tête. Et bientôt, tu vas perdre l'esprit. Attention, c'est une autre affaire. Oui, on va le voir. Tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Vous remarquez l'humilité de Samuel. Il ne dit pas, moi, Samuel, je t'ai donné une ordonnance ou un commandement, tu ne l'as pas observé. Mais Samuel dira à Saül, mais c'était le commandement de Dieu que tu devais observer. Il aurait pu se prendre d'autorité, Samuel, en disant, moi, je suis l'autorité déléguée de Dieu. Non, il disparaît, Samuel. Mais il rappelle à Saül qu'il a marché à côté des plates-bandes et que là, eh bien, quelque part, c'est pas à lui. C'est pas à lui qu'il a désobéi au prophète, et c'est à Dieu même qu'il a désobéi. L'Éternel aurait affermi, et c'est là où on va voir la catastrophe, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous vous rendez compte? Il y avait là une promesse dynastique que la famille de Kis avec premier roi Saül, ça pouvait être une dynastie qui pouvait se perpétuer sous la bénédiction de Dieu. C'est quand même triste et dommage. Ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous vous en souvenez? Eh oui. Ça étaye finalement cette parole, autre parole de la Bible. Et là, il va apprendre une nouvelle qui ne va pas lui faire plaisir à Saül. Hein. Ça ne va pas lui faire plaisir. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné pour être le chef de son peuple. Zut. Excusez-moi l'expression, mais Samuel a dit, là j'ai fait une grosse bourde, hein, j'ai fait une grosse bêtise. Excusez-moi de parler un petit peu, ben, tout le monde le comprend, mais bon, c'est pas grossier. Mais toujours est-il, il a dit, j'ai mis les pieds à côté. Là. Vous vous rendez compte? J'avais une promesse devant moi extraordinaire, formidable. Une promesse d'une dynastie pour toujours, et c'était Dieu qui me l'a donnée. J'avais reçu l'onction du Saint-Esprit. J'avais reçu des dons. Il avait changé mon cœur pour que j'aie des fruits. Et là, pour une histoire d'impatience, pour une histoire de précipitation, une histoire de moi et d'ego, eh bien, tout va dégringoler. Parce que Samuel lui dit, mais Dieu, maintenant, a changé d'avis. Il a changé d'avis et il va se choisir un homme selon son cœur. Et celui que Dieu a choisi va devenir le chef. À ta place, il va devenir le roi d'Israël, et c'est lui qui va conduire le peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Avouez que c'est quand même vraiment stupide, une chose pareille. Ouais, c'est vraiment bête, hein. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai encore autre chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il en est dans tout ça? Ben, il en est que il va être roi. Il va rester roi. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer sous son règne. Maintenant, Dieu voulait donner une leçon au peuple d'Israël. Vous voulez un homme? Vous avez fait un choix charnel? Vous allez voir. Vous avez choisi Saül? Il va être roi pendant 40 ans. C'est long, 40 ans, hein? Heureusement qu'on a ramené la présidence à 5 ans, hein? Parce que 40 ans, ça nous ferait quoi, là? On est en 2015, ça ferait depuis 76, on aurait le même président de la République. Vous vous souvenez de celui de 76? Il est toujours vivant, hein? Il a quelques rides maintenant. Hein. Eh ouais! 40 ans, dites donc! Oh, aïe, aïe! On irait voter une fois tous les 40 ans, hein. Alors. Eh oui. Il va rester 40 ans. Mais je peux vous dire, ça va être quelque chose. Pouf. Parce que c'est le premier roi d'Israël et il va être terrible. Il va être épouvantable. Et puis il va en faire voir de toutes les couleurs. Et particulièrement, il a une affection particulière pour David. Il aime bien faire la course dans les montagnes avec David. Vous connaissez l'histoire? Ah oui, ils font la... Mais jamais, jamais David ne sera rattrapé. Hein. Parce que lui, on va le voir maintenant. On va voir un peu ce qui s'est passé. Mais c'était épouvantable. Le peuple a souffert. Nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Vous l'avez. Et bien maintenant, vous allez vous en contenter. Et si vous vous plaignez, parce que c'est toujours les plaintes d'Israël comme dans le désert. Nous voulons la manne, nous voulons des cailles, nous voulons ceci, nous voulons cela, mais Dieu donne. Et quand on tape du pied, il faut le dire, quand on tape du pied en disant « Seigneur, je veux ceci, je veux cela, etc. etc. » Seigneur nous dit « Écoute, tu me fatigues. » Hein? Enfin, je sais pas si j'imite bien, mais tu me fatigues, ce que tu m'as demandé, je t'exauce. Mais alors, c'est un cadeau empoisonné que nous avons là. Hein? Parce que là, on n'est plus sous la domination du Seigneur. Il y en a un qui va s'occuper de nous. Hein? si tu m'adores et tu me te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Vous savez qui c'est, vous connaissez son nom à celui-ci, hein? Ouais. Mais là, nous n'avons plus aucune garantie, hein. Il n'y a plus d'assurance tout risque, hein. C'est parce que nous avons changé de bord. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parce que tu n'as pas observé ce que je t'avais commandé. Désobéissance et fausse repentance. Oui, j'ai vu que mon équipe allait me laisser tomber. J'ai vu qu'il fallait absolument demander la bénédiction. Même si j'ai désobéi un petit peu, c'est pas grave, hein. C'est une fausse repentance, ça. C'est pas une repentance du tout. Il n'y a aucune contrition, il n'y a rien qui finalement, eh bien, s'appelle repentance dans cette affaire. Allez, on va aller au chapitre 16 maintenant. Je vous tiens jusqu'à demain matin parce qu'on va finir le livre des rois en complet, hein. Ça va? Ben demain, vous ne travaillez pas, de toute façon, c'est demain samedi. Ça va? Alors, on va voir comment ça se passe. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, d'abord. L'Éternel dit à Samuel après tout ça, hein, parce que quand Samuel a entendu que le rejet, la réjection de Saül, Samuel a pleuré. Oui, il nous est dit que quand il s'est quitté, Samuel a quitté Saül, il est remonté dans sa maison de Gilboa, et il nous est dit un peu plus haut, hein, Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'à le jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül au roi d'Israël. Et il a eu une grosse tristesse, Samuel. Et Dieu va interpeller Samuel. Il va lui dire, mais Samuel dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Eh oui, il avait mis ses espérances, Samuel. Bien qu'il sache qu'il y avait une faute qui avait été commise, une désobéissance. Et Dieu va lui dire, mais je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enferai chez Isaïe. Et là, on va aller voir dans la maison d'Isaïe, on va tourner la page, et on va reprendre au verset 11. Et au verset 11, on va mettre devant Samuel tous les fils d'Isaïe. Verset 10, par exemple, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, le père, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure, hein. Comme quoi il y a des beaux garçons en Israël, hein. Hey, petits et grands, hein. Ouais. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit une corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Intéressant. Dieu avait d'abord donné une indication à Samuel. Pour remplacer Saül, il devait se rendre donc dans la maison d'Isaïe. Maison d'Isaïe, il avait 8 fils. Plus beaux les uns que les autres, des grands, des petits, enfin de toutes sortes. Hein. Voilà. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, etc. etc. Et Dieu dit à Samuel, non, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là. Et le prophète dit, mais il n'en reste pas encore, t'en as pas un huitième, par exemple? Ah oui, mais c'est le petit, hein, c'est le Benjamin, lui, il compte pas, hein. Ça, c'est des considérations très humaines, hein. Il compte pas. Eh ben, justement. C'est celui qu'on n'attendait pas qui va être choisi à ce moment-là. Alors, il est venu, le petit David. Il a laissé, hein, ses troupeaux, et puis quand il est arrivé, il a dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein? C'était quand même un sacré événement que le prophète descende dans la maison, hein, parce que, comme ça. Et il nous a donné des caractéristiques de ce beau petit garçon, hein, certainement un adolescent, plus jeune, forcément plus jeune que Saül, hein, et donc avec ses caractéristiques. Et à ce moment-là, Dieu a montré au prophète, maintenant c'est lui. Tu te lèves, tu vas loindre d'huile, et il nous est dit que Samuel prit une corne d'huile. Je vous ai parlé d'une fiole tout à l'heure, hein. Une fiole, c'est tout petit, mais une corne, il y a quand même un petit peu plus d'huile. L'onction de Dieu, multipliée. réduite finalement à la partie incongrue, nous pourrions dire, dans la fiole, mais par contre, la corne, là, pour nous montrer que c'était le choix de Dieu, c'était pas le choix du peuple. David a été le choix de Dieu et non pas le choix du peuple. Et nous savons ce qu'a été David par la suite, qui a régné 40 ans, l'homme ami de Dieu, celui dont le cœur était intègre et fidèle à Dieu. Il ne l'a peut-être pas été toujours, parce que mais lui s'est repenti de ses fautes en tous les cas. Il a reçu donc cette onction de la corne d'huile, et là, loin au milieu de tous ses frères. Remarquez, ça va faire des jaloux, hein, c'est comme l'histoire de Joseph. Hein. C'est quand David va aller à la guerre contre Goliath, Eliab, le premier, va lui dire « Qu'est-ce que tu fais là, toi le gamin là, t'es pas un soldat, etc. » Il va être humilié, David. Eh oui, mais ça fait partie finalement de ceux que Dieu choisit, souvent ils sont humiliés. Hein. Ils sont pas mis en l'honneur, au contraire, on les rejette et on les repousse. Il a, loin au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de David, à partir de ce jour et jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai que la vie de David a été une vie aussi tumultueuse, une vie extraordinaire. Mais le témoignage que nous recevons dans la Bible de David, c'est que malgré ses fautes, eh bien, malgré peut-être les écarts qu'il a commis, David s'est toujours présenté devant Dieu avec une grande foi et il s'est toujours repenti de ses péchés et Dieu l'a relevé à chaque fois. Ça, c'est la vérité et c'est ce qui véritablement, eh bien, marque la vie de David. Choix divin. Et nous allons parler de la déchéance maintenant de Saül. Verset suivant. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit. Ah, là, ça pose question, hein, parce que les exégèses bibliques se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est troublant une chose pareille. Hein. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parte, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül dit, bah, allez me le chercher tout de suite parce que moi je peux plus tenir. Hein. Je ne peux plus tenir, c'est plus fort que moi. Hein. Alors David a été cherché et puis il jouait de la musique. Hein. Voilà. David arriva auprès de Saül, se présenta devant lui, il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Il a plu beaucoup à David dans un premier temps, hein, à Saül, pardon. Et Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors là, il y a vraiment des questions. C'est biblique, hein, ce que je vous raconte, hein, c'est pas une histoire. Et je crois que ça existait du temps de David et David et Saül. Mais vous savez, ça existe encore. Hein. Parce que nous, si nous sommes des mortels, en tous les cas, les esprits sont immortels. Hein. Voilà. C'est la même chose. Et quand on lit ça, on se dit, mais l'esprit se retira de Saül. Dans le psaume 51, quand on lit le repentir, hein, vous connaissez le psaume 51 après ça, après son adultère, après ses mensonges et après son meurtre sur la femme de sa maîtresse, Bathsheba, il est dit « Ne retire pas ton bon esprit de moi. Ne retire pas. » Il avait la crainte de Dieu, lui, en tous les cas. « Ne retire pas. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Ça, c'est les paroles de David. Hein. Quelle différence avec Saül, hein. Il se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit. Et vous avez remarqué, venant de l'Éternel, c'était un mauvais esprit. Est-ce que Dieu serait finalement un mauvais esprit? Non. Non, Dieu n'est pas un mauvais esprit. Dieu est l'Esprit Saint. Trois fois saint. Pur. Immaculé. Sans tache. Ben, il n'y a pas de mots pour définir. Hein. Ce sont des mots ineffables. Non, mais ça fait comme les serpents dans le désert, vous comprenez? À force de maugréer, de murmurer les Hébreux, alors qu'ils marchaient sur un tapis de serpents, mais qu'aucun ne les mordait, parce qu'il y avait la colonne de nuée, et puis il y avait naturellement, et bien là, hein, toute la présence de Dieu il n'y avait pas de mal. Et quand ils ont commencé à murmurer, Dieu s'est retiré, il nous a dit que Dieu s'est retiré, et à ce moment-là, il est mort beaucoup de gens en Israël par la morsure des serpents. Et le problème, c'est qu'avec Saül, il avait reçu l'Esprit de Dieu, il avait reçu les dons spirituels, enfin si on peut dire ça comme ça, il avait reçu un cœur nouveau, mais un cœur nouveau c'est comme un jardin, ça se cultive, autrement il y a des mauvaises herbes qui arrivent et qui poussent tout de suite après. Vous savez comment ça se passe, hein? Si vous avez un jardin, ben, il faut y revenir, hein? Faut biner, faut bêcher, faut tout ça. Moi j'ai trouvé la combine, j'ai une terrasse et j'ai mis de la pelouse synthétique, rien ne pousse, et c'est toujours vert. Faites comme moi, vous verrez, vous aurez moins de mal. Hein. Et n'essayez pas d'élever une chèvre, hein, parce qu'elle ne va pas manger. Hein. Elle va mourir de faim. Hein. Alors, nous voyons que ce mauvais esprit, c'est ça la question. C'est que Dieu, il s'est retiré. Et quand Dieu se retire, qu'est-ce qui reste? Quel est ce qui va occuper finalement la vie, le cœur? Ben, Jésus nous le met dans une parabole. Quand il dit, à un moment donné, quand la maison a été nettoyée, ornée, balayée, et si la personne qui a fait l'objet d'une délivrance et même d'une dotation de la vie de Dieu et de l'Esprit de Dieu, et si finalement elle n'entretient pas ça, il nous a dit, mais il y a 7 démons plus méchants qui reviennent, plus méchants que le premier, qui reviennent et ils vont occuper la maison. Et la personne, eh bien, va devenir comme Saül, agitée par des mauvais esprits. Au lieu de porter du fruit, ils vont porter finalement des épines et des ronces. Et Saül a été une épine et une ronce pour le peuple d'Israël. Il a été une épine aussi pour le pauvre David, parce que on connaît l'histoire. Et comment il est mort? Comment il est mort, Saül? On pouvait dire qu'il a quand même, là, il avait hérité d'un mauvais esprit. Alors qu'il avait combattu, l'occultisme pendant des années pour la forme, hein, pour la forme. Quand il s'est trouvé pris sur la montagne de Gilboa, et que les Philistins tout à nouveau allaient complètement, eh bien, le tuer, lui et son fils. D'ailleurs, ils sont morts tous les deux le même jour, Jonathan et lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans sa crainte et dans sa peur de mourir, il a été consulté la, comment on appelle ça? Comment on appelle? La voyante, hein? La voyante d'Andorre. Pas Andorre dans les Pyrénées, hein? Parce que là, il y avait le voyage était un peu plus long. Mais Andorre. Et il a été finalement dans tout ça, eh bien, il s'est remis en connexion, ou il ne s'est jamais déconnecté finalement, avec les puissances diaboliques et ténébreuses. Vous savez, il faut faire attention à ça, ça ne pardonne pas. Quelquefois, on a vu des frères et des sœurs qui, sortant de l'occultisme, ont bien pris conscience que c'était dangereux, et qui n'ont jamais voulu transiger, qui ont toujours resté un petit peu assis entre deux chaises. Se sont dit, oui, mais bon, la Bible nous dit que c'est dangereux, que tout ça, bon, c'est ça, etc. On peut adorer des faux dieux de temps en temps, parce que bon, ça peut servir, ça peut être utile. Ben, vous savez, je peux vous dire que ça va jamais très loin. Et Saül y a laissé sa peau. Il est mort le lendemain. C'était radical. C'est comme ça qu'il a terminé. Non, non. On appartient au Seigneur entièrement, ou rien du tout. On ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pas possible. Et on ne peut pas avoir assis entre deux chaises. C'est l'un ou l'autre. Et ça se finit toujours très mal. Ça se finit toujours très mal parce que vous savez, on a l'assurance de la grâce de Dieu, de sa sécurité. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et nous, si on est à faire le grand écart, ben à un moment ou à un autre, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser dans notre cœur. Si c'est pas l'homme nouveau qui est régénéré, si c'est pas véritablement l'homme qui va s'humilier, l'homme qui va, de grand qu'il est, va devenir petit, modeste, obéissant, etc., etc., ça va se développer. Et ça va nous donner véritablement une foi établie, une foi qui va permettre à Dieu de se servir de nous et d'avoir une autorité de Dieu, l'autorité de l'Esprit. Et quand on compose avec un petit peu de ce côté, un petit peu de ce côté-là, à un moment donné, je peux vous dire que ça finit très mal. Pauvre Saül, il avait tout pour bien faire. Il avait tout, des débuts prometteurs et une faillite spirituelle catastrophique. C'est la leçon que nous pouvons en tirer, désobéissance et impatience. C'est le temps de Dieu qui est important. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et vous savez, s'il y a une chose que nous devons apprendre, parce que c'est l'allié de notre foi, c'est la patience. Quand on commence à tempêter, quand on ne peut plus supporter ceci et cela parce qu'on pense qu'on est suffisamment grand, suffisamment fort. Hélas, il arrive ce qui doit arriver. C'est comme les gens qui... Vous savez, sur nos routes, il y a les limitations de vitesse. Hein. C'est 130 sur les autoroutes. On voit des fous, quelquefois, qui passent à des vitesses extraordinaires, même dans les rues. Hein. Même dans notre petite rue en face, là. Ça devrait être à 20 km/h. Il y en a qui passent à 60, hein, ici. Quelquefois, je me dis, mais quand ici, il y a un enfant qui traverse, et ça se finit mal à un moment donné. Hein. Non, faut prendre le temps. Parce que le temps n'est pas notre temps. C'est le temps que Dieu nous donne. Et il sait très bien pourquoi, quelquefois, nous devons attendre. Alors que le Seigneur nous bénisse, souvenons-nous que nous pouvons perdre l'esprit. Et je pense que si Dieu nous a appelés, c'est pour nous conduire jusqu'au bout. Que nous soyons bénis et que nous soyons bénédiction aux autres. Parce que ce n'est pas possible autrement de pouvoir bénir les autres si on n'est pas béni soi-même et si on est passé à côté de la bénédiction. On peut toujours en fabriquer une bénédiction, mais ce ne sera pas la bénédiction de Dieu. Ce qui compte, c'est celle qui vient du ciel, celle de l'Esprit-Saint. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as appris à marcher au pas avec toi. C'est vrai, ce n'est pas temps de courir. Peut-être qu'il arrive des moments où nous courons, mais nous avons à marcher sur un chemin qui est le tien. Surtout que ce chemin, il est étroit, il est resserré et il est périlleux. Alors, ça fait quelquefois des limitations de vitesse. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Moi, je te remercie pour David. Pour Saül, c'est autre chose. Et pour David, je te rends grâce parce que, en effet, tu l'as choisi, Seigneur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme, le bien-aimé de Dieu. Et malgré qu'il a été un homme avec des histoires, toutes sortes de choses, néanmoins, il s'est toujours replacé devant toi. Et quand il a fait fausse route, il est toujours revenu vers toi. Il n'a pas cherché à se mettre en avant en disant que « moi, moi et moi ». Mais Seigneur, il s'est laissé dépouiller. Il s'est laissé enlever sa carapace pour que véritablement, Seigneur, il puisse grandir et grossir, comme, en effet, nous l'avons vu dernièrement, les crustacés, qui doivent perdre leur carapace pour croître. Eh bien, Seigneur, c'est la même chose. Nous croyons, Père éternel, que Saül pouvait avoir une grande armure, mais quand David a voulu la mettre, il s'en est débarrassé, parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus courir. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, aide-nous de comprendre les pensées de la parole de Dieu. Et les pensées de la parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Et ainsi donne-nous d'être, en effet, Père éternel, selon ta volonté. Oui, Seigneur, ta volonté, c'est pas la nôtre. Ta volonté, elle nous est enseignée par le Saint-Esprit. Ta volonté, elle nous est enseignée par l'Écriture sainte, par ta parole. Donne-nous, Seigneur, en effet, contiens quelquefois nos impatiences. Contiens, Seigneur, nos explosions. Et donne-nous, Père éternel, de pouvoir vivre ce que nous avons à vivre, puisque la perspective que tu as mis devant nous, c'est une perspective de bénédiction pour nous-mêmes, mais une bénédiction pour les autres, parce que David a été un homme, un roi, qui a été en bénédiction pour le peuple d'Israël. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.